Je vous propose d'ouvrir la parole de Dieu dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 17, un simple verset. Le contexte, nous le connaissons, Paul se trouve à Athènes, dans cette ville ô combien païenne. Il se trouve à l'aéropage devant des philosophes, devant les intellectuels de la ville. Et là, il va annoncer l'évangile et on arrive au cœur du sujet lorsque il va annoncer eh bien, le moyen d'être sauvé, versets 30 et 31. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir parce qu'il a fixé un jour où il va juger le monde selon la justice par un homme qu'il a désigné, et il en a donné à tous une preuve digne de foi en le ressuscitant d'entre les morts. Amen. Et quelle va être la réaction de ses auditeurs lorsque l'apôtre Paul, eh bien, prêchera ces choses-là? Lorsqu'ils vont entendre de parler de résurrection des morts, ils vont lui dire de se taire. Ça ne nous concerne pas. Tu reviendras une prochaine fois. Vous savez, je me dis que lorsque on entend la parole de Dieu, lorsque on la prêche, lorsque on veut la recevoir dans notre cœur, il y a des choses que l'on n'aime pas forcément entendre. Et ici, la résurrection des morts était quelque chose qui allait au-delà de l'intellect, au-delà de la raison, au-delà du culte de la raison que les philosophes grecs eh bien, cultivaient en ce temps-là. Et je me dis que le thème d'aujourd'hui est un terme qui n'est pas forcément toujours très très populaire, mais qui n'en reste pas moins, eh bien, la marche vers notre salut. Alors de grâce, ne partez pas. Ne partez pas. Ou ne me demandez pas de me taire. Hein. On va réfléchir ce matin sur ce qu'est la repentance. Comment faire pour être sauvé? C'est une question qui est importante parce qu'elle répond à une interrogation que l'on a au plus profond de notre cœur. La Bible dit que Dieu, dans le cœur de chaque homme, a mis la pensée de l'éternité. Et à chaque fois que des hommes ont posé la question aux apôtres, que faut-il faire pour être sauvé? La réponse a été la même. Il est nécessaire de se repentir. Il est nécessaire de passer par une conversion, par quelque chose de fort, par un demi-tour important. Qu'on le veuille ou non, qu'on le reconnaisse ou non, eh bien, il n'y a pas d'autre moyen de le faire. La repentance fait partie du message central de la Bible. Les prophètes, à maintes et maintes reprises, ont dit au peuple, j'ai pris un verset parmi tant d'autres, livre du prophète Ésaïe au chapitre 31, verset 6, « Israélites, vous êtes complètement détournés du Seigneur, revenez donc vers lui !» Jean-Baptiste, eh bien, dira, portez des fruits dignes de la repentance. Jésus lui-même enseignera qu'il est nécessaire de se repentir. La repentance n'est pas une option. La repentance n'est pas quelque chose de surfait. La repentance n'est pas un concept philosophique, n'est pas un concept théologique uniquement. Mais c'est une vérité que tous les hommes, s'ils veulent être sauvés et s'ils veulent conserver leur salut, doivent vivre et doivent expérimenter. Alors, j'en vois qui dans leur cœur se dire, eh pasteur, ça fait 25 ans moi que je suis converti, que je me suis repenti. Je suis tranquille, ce matin ça va pas me concerner. C'est faux. Non. Gardez bien les oreilles ouvertes. David, l'homme selon le cœur de Dieu, a eu besoin de se repentir. Tout simplement parce que nous sommes encore dans un corps que l'apôtre Paul, 1 Corinthiens 15, appelle un corps corruptible, c'est-à-dire qui peut être malade dans sa nature, malade physiquement, mais également malade spirituellement. Nous sommes aptes et nous sommes enclins à commettre le péché, à salir le vêtement de justice que notre Dieu nous a donné. Et c'est ce qui fera la différence, et je le dis souvent, mais c'est ô combien important, entre un homme de Dieu et finalement quelqu'un qui perdra son salut au fur et à mesure, c'est que l'homme de Dieu lorsqu'il chute, la femme de Dieu lorsqu'elle chute, elle vit une véritable repentance. Et lorsqu'on lit les Écritures, on s'aperçoit que parfois il peut exister des ersatz de repentance, des simili de repentance. L'exemple du prophète Jonas. Vous savez que Dieu lui avait donné cette grande mission, va évangéliser Ninive. Les Ninivites, ils sont méchants, de toute façon ils méritent de mourir. Donc moi je vais à Tarsis. Je pars complètement à l'autre bout. Alors, il y a tempête, vous connaissez l'histoire, puis Jonas qui est dans le ventre du gros poisson, qui finalement eh bien, se repent, crie à l'Éternel, et puis là, il est vomi par le gros poisson sur une plage, et puis, à contre-cœur, il va à Ninive. Est-ce une réelle repentance ? Jonas a-t-il vécu une réelle repentance ? A-t-il vécu quelque chose qui a changé sa vie ? Non, parce que ça n'a pas changé sa mentalité. Après avoir évangélisé Ninive en 3 jours, ce qui était largement insuffisant, il va se mettre sur les hauteurs et il va attendre le jugement de Dieu pour la ville. Il va se dire, j'ai tellement mal fait mon travail que c'est impossible qu'ils se convertissent, ceux-là. C'est impossible. La mentalité de Jonas n'avait pas changé. Saül reconnaîtra son péché, mais en revanche, il refusera de vivre les conséquences et il demandera à Samuel de lui faire sauver la face devant les anciens d'Israël. Avons-nous vécu une véritable repentance ? Avons-nous vécu une véritable repentance ? Quelque chose qui a changé, quelque chose qui a transformé, quelque chose qui a révolutionné notre mentalité. C'est quoi la repentance ? Comment est-ce que ça se passe ? Repentance vient d'un mot grec qui s'appelle métanoïa, qu'on peut diviser en 2 parties. Méta, ça signifie changement. Et noïa, c'est ce qui nous parle de nous. Donc la repentance, c'est un changement en nous. Et ce changement en nous, il opère forcément. Il a comme implication le fait qu'il y a des choses qui bougent. Comment ça se passe ? 3 axes. Le premier axe, il y a un aspect que je qualifierais d'intellectuel. Oh ! C'est l'intellect qui est touché. L'origine de ce changement, de ce questionnement, c'est toujours la parole de Dieu. Peu importe la forme, le prophète Balaam, qui était sur une mauvaise voie, va être arrêté par la parole d'une ânesse. C'est étonnant. Dieu va se servir d'une ânesse pour parler à son prophète. Pour nous parler, Dieu peut se servir d'une multitude de choses, de sa parole. Dieu peut se servir d'un frère, Dieu peut se servir d'une sœur, Dieu peut se servir d'une circonstance, Dieu peut se servir d'un petit oiseau, Dieu peut se servir d'une fleur, peu importe. Mais à l'origine, il y a la parole de Dieu qui est communiquée et le Saint-Esprit qui l'utilise afin de mettre en évidence que, effectivement, peut-être que notre pensée a des travers et que nous avons besoin d'être changés et d'être transformés. C'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice, de jugement. C'est pas moi qui vous convaincrai. Moi, je sais pas faire. Au-dessus de mes forces. Par contre, je peux annoncer la parole de Dieu dont le Saint-Esprit se servira afin de convaincre le cœur de péché, de justice et de jugement. Ça se passe dans la tête. Tout d'un coup, le doute s'immisce. Regardez l'apôtre Pierre. Comment il va fonctionner. Non, c'est une prise de conscience que l'on n'est pas du bon côté. C'est la prise de conscience qu'aura David lorsque Nathan va venir lui dire, après son adultère avec Bathsheba, celui qui a volé la petite brebis, c'est toi. Et David va dire à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché et tu ne mourras pas. David, dans son intellect, se dit, mais ouais, en réalité, c'est vrai, j'ai péché. J'ai péché. On ne relativise plus les choses, mais on leur donne leur sens et leur véritable sens. Que va dire Pierre lors de sa prédication de la Pentecôte ? Il va dire aux Juifs, ce Jésus que vous avez crucifié, c'était le Messie, c'était le Sauveur. Et dans leur tête, les Juifs vont devoir accepter que celui qu'ils ont qualifié de blasphémateur, que celui qu'ils ont qualifié d'imposteur, que celui qu'ils ont qualifié, parfois même de fils du diable, était en réalité celui qu'ils attendaient. Et la repentance, c'est un changement de vue sur Dieu. C'est un changement de vue sur Jésus. Tout d'un coup, on comprend la sainteté de Dieu. Tout d'un coup, on comprend la grandeur de Dieu. Tout d'un coup, on comprend qu'effectivement, Jésus est réellement celui qui est décrit par la Bible, celui qui est décrit par la parole de Dieu, celui qu'on nous a annoncé, celui qui a changé la vie de tant d'hommes et tant de femmes. On comprend
qui est Dieu. Et puis en parallèle, on comprend qui nous sommes, qui l'on est. On comprend le péché et son danger. Les choses deviennent évidentes. Le fils prodigue, ce jeune homme qui avait cassé le plan d'épargne que son père lui avait donné, hein, qui avait vendu la part de son héritage, qui se retrouvait, après l'avoir dilapidé, à garder des pourceaux, ce qui pour un juif était la honte suprême, eh bien il va rentrer à lui-même et il va prendre conscience de son état. Un côté, la sainteté de Dieu, on réalise qui est Jésus. Et de l'autre côté, on prend conscience de nos lacunes et on prend conscience de nos manquements. Les deux se rejoignent et font que finalement, on rentre dans une démarche spirituelle en se disant et en posant cette question, que faut-il faire pour être sauvé? Que faut-il faire pour être sauvé? Et une fois que ici se passe quelque chose, eh bien, la deuxième phase, c'est que la repentance trouve son chemin dans les émotions. Seconde épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 7 et au verset 9. Le contexte de ce passage, la seconde aux Corinthiens, est une lettre où Paul défend son apostolat. Et il y a eu des échanges, hein, assez vigoureux entre Paul et les chrétiens de Corinthe. Et une de ces lettres va faire mouche. Et il va y avoir un changement dans le cœur des Corinthiens. Seconde aux Corinthiens, chapitre 7, verset 9. « Je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristés, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. Car vous avez été attristés selon Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. » Paul va se réjouir du fait que ces lettres, dans un premier temps, ont attristé les Corinthiens, en les mettant en face de ce qu'ils étaient, en les mettant en face de, eh bien, des écarts qu'ils pouvaient commettre. Mais ensuite, Paul va se réjouir en disant c'est bien parce que c'est une tristesse qui vous a tiré vers le haut. Et la repentance, elle se passe également dans notre cœur, et surtout dans notre cœur. Notre cœur est touché par le constat de nos erreurs. Notre cœur est touché par le constat du mal que nous avons pu faire, à Dieu premièrement, aux hommes ensuite, et à ceux que nous aimions, et puis à nous-mêmes. On prend conscience de toutes les blessures que l'on peut avoir dans notre peau, dans notre cœur. On prend conscience de ce que l'on est. On prend conscience de toutes nos errances. On prend conscience du temps perdu. On prend conscience de tout ça. Et tout ce constat-là génère une grande tristesse en nous. La vraie question, c'est de savoir comment on gérera cette tristesse. Vous savez, la tristesse, selon Dieu, elle est ponctuelle. Et elle produit un relèvement. À un moment donné, l'apôtre Pierre qui va renier Jésus, lorsqu'il va croiser le regard de Jésus dans le prétoire, il est dit, j'aime beaucoup ce passage de l'évangile de Matthieu, où il dit que Pierre pleura amèrement. Mais ensuite, Jésus va relever Pierre. Judas va également pleurer. Judas va également aller rendre les 30 sicles d'argent pour le prix duquel il avait vendu Jésus. 30 sicles, c'était le prix auquel on vendait un esclave. Pourtant, Judas va être attristé, mais d'une tristesse selon les hommes, il va aller se pendre. Vous savez, mes frères et sœurs, c'est très important. Après avoir chuté, on peut se pendre spirituellement. On peut se pendre spirituellement. En se fustigeant, en se mortifiant, et en n'étant pas capable de saisir la main et de saisir le pardon que Dieu veut nous offrir. Lorsque nous éprouvons ce sentiment de tristesse selon Dieu, on peut dire que l'on vit ce que l'on appelle la contrition. La définition d'un tel mot, c'est le brisement dû au sentiment d'avoir commis une faute grave. On est brisé à l'intérieur. On est brisé à l'intérieur. Il y a quelque chose en nous qui est cassé et qui a tellement besoin d'être reconstruit. Le publicain que l'on trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 18 au verset 13 dira, il est dit de lui qu'il se tenait à distance, qu'ils n'osaient même pas lever les yeux au ciel, mais ils se frappaient la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Dans son cœur, il est retourné. Dans son cœur, il y a quelque chose qui est là. Il se dit « Mais je suis pas digne de me tenir devant toi. » Il se frappe la poitrine, l'endroit du cœur, l'endroit de ses émotions. Il se dit « Mais je voudrais tellement, Seigneur, comment est-ce que je peux faire ?» Vous savez, il faut se méfier des apparences. Ce n'est pas parce que l'on ne pleure pas, que l'on hurle pas, etc., que l'on ne vit pas une vraie repentance. Et à contrario, c'est pas parce qu'on pleure, qu'on gémit, et puis qu'on fait tout un cinéma, qu'on vit une vraie repentance. J'ai une moitié, quand elle témoigne, quand on va dans d'autres églises, et qu'on lui demande de témoigner, a tout le même réflexe. Qu'est-ce que je vais raconter ? Comme Evelyne, elle est dans une famille chrétienne. Un jour, certes, elle a demandé pardon à Jésus pour ses péchés. Voilà. Personne ne l'a vu, personne ne l'a su. Elle a continué à avancer. Il n'y a pas eu... Le ciel n'a pas tremblé. Pourtant, elle est convertie, hein, je crois. J'en atteste. Vous savez, bien que ce soit... La repentance se passe dans les émotions, dans le siège, dans le cœur, dans le siège des émotions. Il n'en reste pas moins, bien que c'est quelque chose qui est profond et qui est intime. Peut-être quelqu'un se dit-il, ben moi je ne dois pas être vraiment repenti, parce que je n'ai pas pleuré, je me suis... Voilà. Tu as demandé pardon, Seigneur, tu as conscience de tes péchés, du fait que tu es pécheur. Eh bien, sache une chose, hein, c'est que tu as vécu ta repentance. Mais il n'empêche qu'il se passe quand même quelque chose dans notre cœur. Notre émotion est touchée, notre cœur est touché. Cette tristesse est une nécessité. Quelqu'un a dit à propos de cela, « Parfois, pour dénoncer le péché, il faut aller au-delà de la zone de confort, de l'amour et de la compassion. » Mais il faut le faire car le péché est mortel. Je suis désagréable ce matin ? Vous êtes sûr, hein ? Zut, c'est que je fais pas mal mon travail alors. Père, un brisement. Quelque chose qui se passe en nous. Quelque chose qui me surprend. Allez, je le dis de temps en temps. Je ne l'ai jamais dit au culte, mais je vais le dire. Je vais vous poser une question. Depuis combien de temps n'avez-vous pas ressenti une conviction de péché, de justice, de jugement ? Depuis combien de temps, Seigneur Jésus, ne vous a-t-il pas dit « Demande-moi pardon, va demander pardon. » À ta femme, ton mari, à ton patron, ton voisin, je deviens plus désagréable là ? Depuis combien de temps ? Est-ce quelque chose de normal ? Est-ce quelque chose de logique ? Je suis dans un corps corruptible. Et pourtant, lorsque nous savons, nous sommes susceptibles de pécher. Est-ce que notre cœur se serait rendu, se serait-il habitué ? À tel point que nous ne ressentons plus la nécessité de demander pardon et de nous repentir, de vivre ce brisement. L'implication directe, c'est qu'il n'y a plus de changement. Parce que sans repentance, je n'autorise pas mon Dieu à agir et à changer ma vie. Vous êtes d'accord ? Ça se passe là-dedans. Si nous sommes dans ce cas de figure-là, prenons du temps devant le Seigneur. Seigneur, change mon cœur de pierre en cœur de chair. Que je puisse encore être sensible à ta voix. Seigneur, parle à mon cœur. J'aimerais connaître ce brisement. J'aimerais vivre cette chose-là. S'il te plaît, je me suis peut-être habitué à ma situation. Je me suis peut-être habitué,
et je le dis avec beaucoup de pudeur, et je le mets entre 10 000 guillemets, à ma médiocrité spirituelle. Seigneur, pardonne-moi, s'il te plaît, redonne-moi ce feu, redonne-moi cette sensation, redonne-le-moi, afin que je puisse changer, afin que je puisse évoluer, afin que je puisse aller de l'avant, afin que s'il te plaît, eh bien, tu puisses travailler encore et encore et encore ma vie. C'est un état ponctuel, ce brisement. Il ne doit pas demeurer. Parce que lorsqu'on demeure dans ce brisement, ou alors qu'on le fait rituel, eh bien, ça dérive sur les mortifications, sur toutes sortes de choses. Mais c'est un sentiment ponctuel de dire, voilà, Seigneur, eh bien, là maintenant, je ressens qu'il me manque quelque chose. Je ressens un décalage par rapport à toi et par rapport à ce que tu attends de ma vie. Mais ça ne reste pas au niveau de l'intellect, ça ne reste pas au niveau des sentiments. Mais ensuite, eh bien, il y a une action de la volonté. Il se passe quelque chose. Le fils prodigue va rentrer en lui-même, il va faire ce constat, puis ensuite il va dire, bon, chez mon père, il y a du bien en abondance, mes serviteurs, ils ont plus que moi, je me lèverai et j'irai voir mon père. Et je lui dirai, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes serviteurs. Et ce jeune homme, il va se mettre en route, et puis il va faire exactement comme il avait décidé. Pas un mot, pas une virgule de plus ou de moins. Pourtant, le chemin a dû être long pour revenir. Mais ce brisement va opérer une action. Et je pense que lorsque nous nous mettons en route vers le changement, on peut compter sur la main du Seigneur Jésus. On peut compter sur la main de Dieu. On peut compter sur l'assistance du Saint-Esprit qui nous fortifie, qui nous fait du bien, qui nous donne la force nécessaire pour vaincre ce qui nous aliénait. Lorsque la personne qui boit, eh bien, décide, eh bien, connaît ce brisement en lui ou en elle, et qu'elle se met en route vers ce changement, vers le changement de la sobriété, alors que se passe-t-il? Eh bien, la main du Seigneur l'accompagne, et il délivre les chaînes, il les brise. Celui qui fume, eh bien, il peut être délivré exactement de la même manière. Simplement parce qu'on est passé, eh bien, par ce chemin-là. On se met en route. Et cette mise en route, elle a plusieurs étapes également. La première, c'est la confession. Non pas à un homme, mais à Dieu. Parce que la Bible dit qu'il n'y a qu'un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes. C'est Jésus-Christ. Il affirme, cet homme qui connaît ce brisement, eh bien, il affirme sa faute, sans la diminuer ou sans l'excuser. Mais il va surtout formuler l'attachement à son Dieu. Tout d'un coup, il va se dire, oui, j'ai péché. Mais je te fais confiance. Oui, j'ai péché, mais je t'aime. Et je m'attache à toi. Je décide de vivre quelque chose avec toi. Je décide de vivre quelque chose pour toi. Je sais que sans toi, je n'y arriverai pas. Donc je m'accroche à toi, Seigneur Jésus. Toi qui ne changes pas, qui le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je vis quelque chose. Et je te fais confiance. J'avance. Il reconnaît qu'il n'a pas ouvertement qu'il a mal agi. Voilà. C'est ça la confession. Si on a fait du mal, j'aime beaucoup l'exemple de Zachée, hein, qui va aller rendre tout ce qu'il avait volé, et puis même un petit peu plus pour accomplir la loi. Personne ne va lui dire, mais c'est un acte spontané. Lorsque je me mets en route vers le changement, je confesse mon péché. Lorsque je me mets en route vers le changement, eh bien, je fais un demi-tour, je me convertis. On change d'attitude et c'est quelque chose qui se voit. La conversion se voit. La repentance, quelqu'un qui est passé par une véritable repentance, ça se voit. Conséquence, c'est qu'il y a de la joie dans le ciel. Luc chapitre 15, verset 7, je vous assure qu'il en est de même. Au ciel, il y aura plus de joie pour un seul pécheur qui change de vie que pour 99 gens de bien qui estiment n'avoir pas besoin de changer. Vous voulez faire plaisir au cœur de Dieu? Vous lui ferez beaucoup plus, vous lui donnerez beaucoup plus de joie, vous lui procurerez beaucoup plus de joie en vous repentissant lorsque je me repens lorsque j'ai péché, plutôt qu'en faisant semblant
d'être clean, d'être bien. Vous voulez réjouir le cœur de Dieu ? Ouais ? Alors, vivez la repentance. Vivons la repentance. D'accord. Deuxième chose que procure cette confession à Dieu, pas aux hommes, je le reprécise, Actes chapitre 3, verset 19, c'est le pardon des péchés. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, dira l'apôtre Pierre. À partir du moment où je confesse ce que je crois dans mon cœur, je le confesse de ma bouche. C'est important ça. Alors je peux avoir l'assurance, bien que mes péchés, mes fautes sont pardonnés. Alors en conclusion, la repentance, ne l'oublions jamais, est à la base du salut. Vous voulez être sauvé, eh bien que le Saint-Esprit, ce matin, touche votre cœur. Mais si nous voulons conserver notre salut, nous devons, et je dois, je me mets au même titre que vous, vivre non pas dans la contrition perpétuelle, mais dans la sensibilité au Saint-Esprit, qui sait parfois mettre le doigt là où ça ne va pas. Non pas pour nous culpabiliser, mais pour nous élever et pour nous emmener à l'image parfaite et à la stature parfaite de notre Maître Jésus-Christ. Ces trois expériences, deuxième point, peuvent être vécues simultanément ou séparément, ou dans des laps de temps complètement différents. Pour certains, ces trois, l'intellect, l'émotion et puis la mise en route sera quasiment simultanée. Pour d'autres, c'est un cheminement plus long, mais qui aboutit au même résultat. Respectons le rythme de chacun, puis respectons surtout le Seigneur qui travaille dans le cœur de chacun. Les formes peuvent être différentes, mais elles aboutissent tous à un changement. Qu'on pleure, qu'on ne pleure pas, que l'on soit exubérant ou qu'on ne le soit pas, eh bien, quand on revoit la personne, on dit « Waouh, qu'est-ce que t'as changé ? Qu'est-ce que t'as changé ?» Je me souviens de cette jeune fille, c'était en camp de jeunesse, toute timide. Puis un jour, lors d'un appel, il y a eu une quinzaine de jeunes qui s'approchent, et puis au milieu d'elle, au milieu, il y avait elle. Elle osait à peine me regarder dans les yeux, etc. Là, j'ai prié pour elle, etc. Seigneur, merci. Puis, il ne semblait rien de se passer du tout. Rien du tout. J'aurais pas... Voilà. Et puis, je l'ai revue il n'y a pas si longtemps que ça. Et puis elle vient me voir, elle me dit, vous vous souvenez de moi ? Non, pas vraiment. Vous vous souvenez pas, à tel camp de jeunesse, vous avez prié pour moi ? Excuse-moi, tu sais, j'ai prié pour un certain nombre de personnes, même si je ne suis pas un vieux pasteur. Puis elle m'a rappelé son prénom, elle m'a rappelé les circonstances. Je lui ai dit, mais la jeune fille pour laquelle j'ai prié, elle n'aurait jamais osé venir me regarder droit dans les yeux. Elle m'a dit non, mais Jésus a enlevé toute ma timidité. Il m'a baptisé dans Saint-Esprit, il a enlevé toute ma timidité. Et aujourd'hui, je suis dans le groupe biblique universitaire de mon assemblée, et puis je témoigne de Jésus. Je témoigne de Jésus, et ma timidité, elle a été toute envolée. Waouh ! Il y a quelque chose qui s'est passé en elle. Quelque chose qui a bougé. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Que Seigneur nous aide à vivre telle chose. Ce n'est pas pour nous briser, ce n'est pas pour nous casser, ce n'est pas pour nous amoindrir, mais au contraire, c'est pour nous élever, pour nous garder, pour nous protéger. Que le Seigneur nous aide. Alors la repentance, pour la conclusion de la conclusion de la conclusion de la conclusion, c'est pas de la psychologie. Ce n'a pas pour but d'atténuer notre stress ou alors d'améliorer des situations de manière virtuelle. Mais la repentance est tout d'abord un acte spirituel, fondé sur la volonté d'un homme, d'une femme, et bien de découvrir la vérité, et au-delà de la découvrir, de vivre la vérité. Parce que la foi, ce n'est pas une religion, mais c'est quelque chose que l'on vit dans notre quotidien. Alors que le Seigneur nous aide, et que le Seigneur nous fasse du bien.